Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, nous entrons demain au Saint et Grand Carême, la période de 40 jours prévue par le calendrier liturgique pour préparer les fidèles à la Semaine Sainte et la fête de Pâques. Nous fêterons dimanche prochain, qui sera donc le premier du Grand Carême, dit dimanche de l'Orthodoxie, la restauration des icônes, événement qui a clos en 843 la période de l'iconoclasme. Cette émission sera consacrée à un grand-père de l'Église, Saint Jean Damascène, moine de Jérusalem, qui fut un grand défenseur de l'icône. Pour en parler aujourd'hui avec nous, un grand spécialiste de Byzance, Bernard Fluzin, professeur à l'Université de Paris 4 et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Monsieur Fluzin, Jean Damascène est connu comme un des grands hymnographes de l'Église et auteur d'ouvrages dogmatiques dans un grand exposé de la foi orthodoxe. Mais vous nous parlerez aujourd'hui plus particulièrement de ces trois discours à ceux qui offensent les saintes icônes, ouvrages qui sont en rapport direct avec la querelle iconoclaste. Mais si vous voulez bien, commençons d'abord par deux mots sur l'auteur.
Oui, alors comme vous l'avez dit, c'est un des pères de l'Église les plus importants. C'est celui un petit peu qui clôt l'âge patristique avec cette somme théologique qu'il nous a léguée et qui a été diffusée assez largement à Byzance, encore qu'un petit peu tardivement. Alors ce qui est important pour le situer, c'est de voir à quelle époque il vit. C'est un homme, disons, dont la vie se déroule entre 675 et 750 et qui vit à Jérusalem, à Damas d'abord, où il appartient à la grande famille arabe des Mansour, et où il reçoit une très forte éducation, j'allais dire, grecque. Et puis il devient moine à une époque peu connue, et il va être actif, plutôt qu'à Saint-Sabas, où le situe la tradition, à Jérusalem même. Et c'est cela qui est important pour comprendre la façon dont il écrit. Il n'est pas, pour les images, il n'est pas dans l'Empire, il est extérieur à l'Empire, même s'il se sent rattaché à l'Empire. Et il écrit dans un milieu en terre d'islam, il est entouré à la fois de musulmans et de juifs. Et une partie de son argumentation, une partie des difficultés qu'il ressent pour justifier le culte des images, vient de cette situation particulière, parce que les chrétiens sont critiqués à la fois par les juifs et par les musulmans pour l'usage qu'ils font des images. Alors c'est cela qu'il faut bien voir, et c'est dans ce terrain, qui est un terrain très particulier, que va tout d'un coup arriver quelque chose qui, pour l'Église de Jérusalem, est ressenti très douloureusement. C'est que la critique contre les images va venir cette fois-ci non plus des adversaires traditionnels, mais tout d'un coup de l'empereur chrétien qui s'en prend aux images, et cela à une date que pour ma part je situe en 726 sous le règne de Léon III, donc très très tôt. Et c'est à ce moment-là que Jean Damascène va être amené à réagir.
Il réagit donc en écrivant des discours. Ces discours s'adressent à ceux qui offensent les images, à ceux qui attaquent les images. Vous avez bien dit, il vit en terre d'islam, il est en dehors de l'emprise de l'empereur de Constantinople, mais il se sent tout de même obligé, je dirais, de défendre les icônes et de répondre à cette politique. Alors, quels sont ces trois discours, que l'on appelle comme ça? À quelle époque sont-ils écrits, à votre avis? Parce qu'évidemment, je crois qu'il y a des points de vue assez différents parfois sur la datation, et c'est important de savoir, et quels sont les éléments qui nous permettent de comprendre un tout petit peu justement, de quelle manière on peut dater.
Voilà. Alors, je pense que la situation est relativement claire pour les deux premiers discours. Donc, nous avons trois discours qui se reprennent l'un l'autre et dont l'ordre relatif est assuré. C'est-à-dire qu'on a le discours 1 d'abord, puis le discours 2, puis le discours 3. Alors, le discours 1, comme vous l'avez dit, sa datation varie selon les historiens qui s'en occupent. On peut opter pour une datation très haute, c'est ce que je fais, ou pour une datation beaucoup plus basse dans les années 740. Alors, la raison pour laquelle, pour ma part, je date très tôt le premier discours sur les images, en 726, c'est que dans le texte que nous avons, tout montre que nous sommes au tout début de l'iconoclasme impérial. Il y a des mentions qui sont tout à fait claires d'un décret que nous connaissons par ailleurs, un décret de Léon III contre les images, et nous n'avons aucune mention de la déposition du patriarche Germain. Or, dans le deuxième discours qui fait référence au premier, cette fois-ci, il est question de la déposition du patriarche Germain. Et donc voilà la raison pour laquelle je pense qu'il faut dater le premier discours d'avant 726, le deuxième discours d'après 730, probablement très peu après 730. Je ne vois pas dans ces deux discours rien qui oblige à dater plus tardivement ces deux œuvres. Quant au troisième discours, il pose plusieurs problèmes. C'est un discours qui est détaché de toute actualité, c'est plutôt un traité sur l'image qu'à proprement parler un discours. Il n'est transmis que par un manuscrit, il est damascénien par le contenu. Est-il de la plume même de Jean Damascène? C'est assez difficile. En tout cas, il doit être plus tardif. Même si, dans la doctrine, nous ne voyons rien, non plus dans le troisième discours, qui fasse référence au développement de la querelle des images, telle qu'on la trouvera avec Constantin V, disons vers 750, hein, peu avant le concile de Hiéria. Donc voilà, si vous voulez, ce que je pense, le premier discours, ce que je pense, pas seulement, c'est ce qu'on trouve en lisant les textes. Ce premier discours de Jean Damascène est peut-être le plus important, c'est le premier que nous ayons en réponse à l'iconoclasme impérial. Il faut le dater très très tôt. Et il ne faut pas oublier qu'à la fois il est une réponse à l'empereur Léon III, mais qu'il est écrit en terre d'islam dans un milieu où il y a beaucoup d'adversaires des images. Alors, le deuxième discours, le premier discours est écrit à la demande de l'évêque de Jérusalem. Le deuxième discours va être fait par Jean parce que le premier a paru trop difficile. Donc je dirais que le deuxième discours est intéressant, mais il est plus polémique, il est moins théologique, c'est une forme allégée. Quant au troisième discours, c'est toujours intéressant de le regarder, mais il semble détaché de l'actualité brûlante et on y trouve une pensée plus scolastique, quelque chose de plus systématique comme exposé sur l'image.
Alors maintenant, si vous voulez bien, on va entrer dans l'argumentation. De quelle manière aborde-t-il ce problème de l'image qui, rappelons-nous, est dans le cœur du débat parce que l'empereur commence à faire descendre ou à détruire les images qui sont dans les églises ou ailleurs. Et évidemment, on va voir que les deux camps vont invoquer la tradition. Pour les deux, la tradition est avec eux. Les uns disent, mais dans la tradition, il n'y avait pas ça. Et les autres disent, mais si la tradition nous dit qu'il y avait des images dans la manière des chrétiens de rendre le culte. Alors, dans ce contexte, il commence à écrire quelque chose que vous avez dit de théologique sur le problème. Et quel est son argument?
Alors, je crois qu'il faut concevoir vraiment, je vais parler plus simplement du premier discours, il faut bien concevoir le premier discours de Jean Damascène comme une réponse. Alors, c'est une réponse à deux types d'adversaires, ponctuellement à Léon III et au décret de Léon III, qu'on a du mal à reconstituer, hein, qui est perdu, et qu'on a vraiment beaucoup de mal à reconstituer, et puis une réponse à une argumentation, j'allais dire, ambiante. Peut-être y a-t-il d'autres écrits, mais je pense aussi qu'il y a surtout une abondance de critiques, peut-être même au sein du christianisme palestinien. Alors, un des points fondamentaux qui vient à la fois des critiques des juifs et puis des critiques probablement iconoclastes, si vous voulez, de Léon III lui-même, c'est que les adversaires des images invoquent tout simplement l'Ancien Testament, en particulier Exode 24 qui paraît particulièrement net. « Tu ne feras aucune image, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut ou sur la terre ici-bas ou dans les eaux au-dessous de la terre. » Donc, le premier argument des adversaires des images est scripturaire. Et non seulement ils sont choqués par les images, mais ils sont choqués aussi par la vénération que les chrétiens rendent aux images. Alors, le premier argument, donc, auquel fait face Jean Damascène est scripturaire. Et il va répondre sur ce point en disant, oui, il y a dans l'écriture de nombreuses interdictions contre la fabrication d'images ou les honneurs rendus aux images. Mais il faut bien comprendre, quand on lit l'écriture, quel est le scopos, quel est le but. On ne peut pas lire naïvement l'écriture. Et la réponse très forte de Jean Damascène, ce sera de dire toutes les interdictions de l'Ancien Testament sont conditionnées par une situation historique particulière et par la crainte de l'idolâtrie. Et on ne peut pas comprendre ces interdictions en dehors de cette crainte de l'idolâtrie. Or, l'incarnation va nous libérer complètement de cette situation historique. Nous n'aurons plus à craindre les chrétiens ne sont pas idolâtres, ne peuvent pas être idolâtres. Et donc, il faut relire différemment l'Écriture. La situation historique dans laquelle nous sommes est maintenant complètement différente. Le Christ nous a libérés de l'idolâtrie. D'autre part, il va bien montrer aussi que il n'y a idole que par rapport à l'objet, c'est-à-dire que entre ce qui représente le Christ ou les saints et ce qui représente des faux dieux, disons, eh bien, il y a une différence de nature. Mais je dirais qu'un argument très fort, indépendamment de cet argument sur l'interprétation de l'Écriture par le but de l'Écriture, c'est le changement considérable, le changement historique qui est créé par l'incarnation.
Donc, une première réponse avec cet argument qui vient de l'Ancien Testament. Et maintenant, l'incarnation. Alors, si vous voulez bien développer un peu ça, parce qu'évidemment, ça, c'est une grande nouveauté, l'incarnation qui justifierait la possibilité de représenter en image.
Voilà. Alors, il y a deux choses. L'incarnation change historiquement la situation. C'est-à-dire que le Christ libère de la crainte de l'idolâtrie. Nous n'avons plus à avoir cette obsession qui était une menace, y compris pour les Juifs. Et puis, d'autre part, l'incarnation va changer, j'allais dire, ontologiquement la situation, parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc, certains interdits qui étaient des interdits de la loi sont abolis maintenant parce que nous sommes dans une situation nouvelle. Et enfin, bien sûr, pour l'image et l'image du Christ, il y a un événement fondamental, c'est que Dieu s'est fait homme, et Dieu s'étant fait homme, il est maintenant représentable, ce qu'il n'était pas sous l'Ancien Testament. Hein? Donc, Jean Damascène va continuer à dire, bien sûr, représenter Dieu dans ce qu'il a d'invisible et dans ce qu'il a de incirconscriptible et de... Cela n'est pas possible, mais à partir du moment où Dieu s'est incarné, à ce moment-là, la représentation, on peut dire très simplement, la représentation de Dieu, la représentation du Christ, est possible. Alors, c'est cela, bien sûr, qui va rendre les choses possibles. Alors, une autre chose, si vous voulez, qu'il faut voir aussi, c'est que dans l'argumentation iconoclaste et probablement dans l'argumentation de Léon III, il y avait une attaque générale contre les images et contre la vénération rendue aux images dans la mesure où on reprochait, et les Juifs aussi de façon assez large comme on peut le voir par Léonce de Néapolis, reprochaient la vénération que les chrétiens rendaient à des objets matériels, parmi lesquels les icônes. Et Jean Damascène, dans le premier discours, c'est cela qui peut créer une certaine surprise quand on le lit, ne se fixe pas immédiatement sur ce que nous appelons les icônes. Il va envisager beaucoup plus largement le rôle de la matière, en disant premièrement que la matière par elle-même est bonne, puisque c'est une création de Dieu, s'opposant cela à des adversaires, un adversaire qu'il ne nomme pas, qui devrait être Léon III, qui lui dit « la matière n'a pas de valeur ». Et Jean Damascène répond, à ce moment-là, vous risquez d'aller du côté du manichéisme. Tandis que pour un chrétien, la matière est bonne. D'autre part, la matière peut être la matière qui sert au salut. Et à ce moment-là, vous avez toute une catégorie, disons, d'objets, hein, que ce soit les lieux saints, que ce soit la matière dont on le bois de la croix, que ce soit la sainte lance, que ce soit l'icône, qui est éminemment vénérable, à condition de bien comprendre quel est le type de vénération qu'on peut rendre à ces objets qui sont faits de matière, qu'il s'agisse de l'icône, qu'il s'agisse d'autre chose.
Donc un grand pas avec l'incarnation et avec la matière, comme vous dites. La matière, il dit, je crois, puisque Dieu est devenu matière, elle peut participer au salut, elle fait partie.
Alors, la matière participe au salut, et il met à part, bien entendu, le corps du Christ, dans la mesure où le corps du Christ lui-même est divin, et divin non pas par adoption, mais par nature, oui.
Donc, cette étape dans le processus de la doctrine, avec l'incarnation, va avancer et... Jean Damascène, comme il est très systématique, va aussi expliquer quelles sont les différentes formes de vénération, quelles sont les différentes formes d'image. Et je crois que c'est après lui que nous allons voir une précision encore plus grande dans l'histoire de la doctrine, avec un pas qui est fait avec les conciles qui ont été convoqués à ce sujet. Mais prenons les choses d'abord avec lui. Il définit, je crois, les différentes formes de proskynèse, vénération, et d'images.
Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un auteur, on peut dire, dans un certain sens scolastique. Il a un goût de la définition, il a un goût de la précision, et il voit bien certains des problèmes que pose une indétermination dans les critiques qui sont faites au culte chrétien. Et donc, il va commencer par poser, et il est pratiquement le premier, hein. On pourrait trouver des antécédents, mais c'est le premier à le faire avec cette netteté. Il va bien distinguer différents types de proskynèse. Il va dire, et il écrit très simplement, qu'il y a d'un côté une adoration, une proskynèse de latrie, cette fois-ci, qui est réservée à Dieu seul. Et puis, d'un autre côté, une proskynèse d'honneur, qui peut être adressée à des personnes munies d'autorité, ou même à des objets matériels, et il en donne des exemples qui sont des exemples scripturaires. Alors, il est peut-être intéressant de dire que ce terme de proskynésis, de proskynèse, peut créer un malentendu avec les occidentaux, parce que dans les textes, dans les traductions latines, il va être rendu assez constamment par adoratio. Donc, je dirais que le vocabulaire latin, à ce moment-là, risque d'appauvrir le vocabulaire grec, et donc on comprend que certains reproches aient pu être faits, disons, de la part de latinophones à des grecs en disant « vous adorez » ou « vous adorez l'image », alors que vous avez, chez Jean Damascène, très clairement, une distinction entre différents niveaux de proskynèse et une proskynèse de latreia qui est réservée véritablement à Dieu seul. Alors, de la même façon, nous allons avoir, de même qu'il a défini la proskynèse, il va définir l'image et définir les différentes sortes d'images. Alors, peut-être qu'il n'est pas mauvais de citer la définition de l'image pour Jean Damascène. L'image est donc une ressemblance qui caractérise son modèle tout en étant différente de lui en quelque chose. En effet, elle ne ressemble pas en tout point à l'archétype. Donc vous voyez, je dirais, une relation, la relation de ressemblance, une relation avec le modèle, et en même temps une différence. Alors peut-être que ce qui est notable ici, en même temps que cette définition, je dirais, c'est ce qu'il n'y a pas dans la définition. Par rapport, par exemple, à l'Horos du Concile de Nicée en 787, Jean Damascène, je crois, ne dit nulle part que l'image est image de l'hypostase ou image de la personne. Il ne dit pas ce dont l'image est image. Et il ne définit pas non plus en quoi il y a différence. Et je crois que s'il ne le fait pas, c'est qu'il ouvre en fait la possibilité, on le voit bien après ça dans les sortes d'images qu'il distingue, il va englober sous le terme d'icône toute une hiérarchie d'images qui vont depuis le Fils comme image du Père jusque tout à la fin, en cinquième ou en sixième catégorie, selon le discours dans lequel on est, le premier ou le troisième, qui est ce que nous appellerions l'image faite par l'homme, l'image artificielle. De façon assez intéressante, il met là à la fois l'écriture, donc j'allais dire l'œuvre littéraire, et puis d'autre part l'image au sens où nous l'entendons. Alors c'est parce qu'il a en vue toute cette hiérarchie d'images, l'influence de Denis l'Aréopagite est assez sensible ici, à la fois image naturelle pour le fils qui est à l'image du père, enfin qui est l'image du père, et image artificielle, qu'il ouvre à ce point sa définition de l'image. Donc par rapport à l'argumentation qui sera l'argumentation iconophile du IXe siècle, je dirais que le vocabulaire de Jean Damascène et la théologie de Jean Damascène apparaît comme encore incomplète, si l'on veut. On aura beaucoup plus de précision par la suite, quand on travaillera véritablement sur l'image comme image d'un prototype qui est la personne ou qui est l'hypostase. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à cette situation historique des discours sur l'image. Nous sommes au tout début de l'iconoclasme impérial. Nous sommes à la fin des années 720, au début des années 730. Hein, et certains points fondamentaux ou certaines distinctions fondamentales, par exemple entre l'image naturelle et l'image artificielle, ne sont pas explicites.
L'histoire continue. L'Église convoque des conciles. Comment cela se passe-t-il?
Alors l'Église convoque des conciles. Je dirais l'empereur convoque des conciles.
Tout à fait, vous avez raison.
Nous sommes à Byzance, et donc ce qui se passe, c'est un enchaînement de faits. Je ne vais pas essayer de retracer trop vite l'histoire de la querelle des images, ou de la crise iconoclaste, ou de l'iconoclasme. Mais les choses, à Constantinople même, les choses vont assez vite. Hein. En 730, c'est la déposition de Germain, c'est le moment où, nous dit-on, ont lieu les premières dépositions d'images, les premières violences aussi. Et surtout, ce qu'on va voir, pour rester cette fois-ci sur le plan de la doctrine, ce qu'on va voir bientôt, c'est le développement de la part des iconoclastes d'une théologie qui est une théologie à proprement parler. On peut penser que l'iconoclasme du tout début, l'iconoclasme de Léon III, dans son décret de 726, hein, qui est attesté par le Liber Pontificalis, restait assez rudimentaire, assez proche finalement des reproches que les juifs pouvaient adresser aux chrétiens. Donc, il y a des abus dans le culte des images. La fabrication des images est interdite par l'écriture. Il y a un risque d'idolâtrie, mais je ne crois pas que nous ayons à ce stade-là d'argument iconoclaste qui soit un argument proprement christologique. C'est ce qui explique que la réponse de Jean Damascène ne soit pas... Bon, elle fait une place à l'incarnation, en ce sens elle est christologique, mais elle ne va pas s'axer sur l'union hypostatique. Alors, ce qu'on va avoir, et qui va changer fondamentalement la situation, c'est que l'empereur Constantin V, hein, qui donc succède à Léon III, qui est le fils de Léon III, probablement avec des conseillers théologiques autour de lui, va préciser l'opposition que les iconoclastes ont aux images en disant « Mais il y a un énorme problème, c'est que si vous faites l'image du Christ, vous faites l'image de l'unique prosopone du Christ qui est à la fois humain et divin, et que de ce fait vous prétendez circonscrire ce qu'il y a de divin dans le Christ, alors que le divin est incirconscriptible. » Alors, cette théologie de Constantin V, on en pense ce qu'on en veut, cette théologie de Constantin V marque un progrès, en fait, un progrès décisif dans la question de l'image. Alors, Constantin V l'expose en particulier sous la forme de questions. Questions qu'il adresse à des évêques, peut-être au moment où il va préparer un concile pour régler, pense-t-il, la question de l'image. Ce sera le concile de Hiéria en 754. Alors, le fait que l'empereur convoque un concile est une réponse à un argument assez fort qu'avaient les iconophiles, qui était de dire, mais finalement, de quoi l'empereur se mêle-t-il ? Le Jean Damascène, en particulier, dans ses deux premiers discours sur les images, n'avait pas manqué de faire remarquer que la définition de la foi n'était absolument pas du ressort de l'empereur, disait-il. Hein? Et il attaquait très violemment Léon III, j'allais dire, le menaçant même d'anathème s'il ne venait pas à se convertir à la vraie doctrine. Et disant bien, s'il y a une question de doctrine, cette doctrine ne peut venir que... de l'Église elle-même, par ses instances, par les instances qui lui sont propres. Donc, il y avait visiblement la demande de part et d'autre de la réunion d'un concile. Dans la mesure où Constantin V va réunir ce concile, eh bien, ce concile, finalement, répond à cette objection. Alors, il réunit ce concile, et le concile de Hiéria, du reste, va endosser une partie de la théologie de l'empereur, et en particulier ses conclusions, c'est-à-dire l'interdiction de faire et d'honorer les images, en particulier les images du Christ. Nous n'avons pas parlé des images des saints, peut-être qu'il faudra y revenir, mais c'est une question un petit peu secondaire. À partir de ce moment-là, la question s'est vraiment fixée sur l'image du Christ. Donc le concile n'endosse pas entièrement la théologie de Constantin V, mais va dans ce sens-là. Et c'est à ce moment-là, en 754, donc nous avons une situation très très particulière. Un concile qui se présente comme œcuménique, malgré sa composition, qui est un petit peu faible, mais qui a été régulièrement convoqué par l'empereur, avec une abondance de participation de l'épiscopat, et qui a pris position contre les saintes images. Alors, comme vous le savez, cela va durer un temps, et après cela, nous allons avoir un autre concile, qui cette fois-ci sera réuni à la fois par Irène et par Constantin VI, avec le patriarche Thérèse, en 787, et ce concile, qui est reconnu comme septième concile œcuménique, à la fois par les églises orthodoxes et latines, ce concile va réintroduire par rapport à Hieria, le culte des images, et proposer du reste une certaine nouveauté, j'allais dire, même si ce n'est pas un concile théologique, il va proposer quand même le fait que l'image est image de la personne, image de l'hypostase. Hein, dans l'Horos de Nicée, nous trouvons ce terme qui n'apparaissait pas dans les discours sur les images de Jean Damascène. Et donc, si vous voulez, on voit bien quel est, me semble-t-il, le rôle de Jean Damascène. C'est un représentant considérable de la tradition. C'est-à-dire que il montre bien que l'usage et la vénération des images, des icônes, si vous voulez, à Jérusalem, dans les années 720-730, est courant. Et d'autre part, que pour Jean Damascène, il n'y a pas de doute qu'il s'agit là d'une tradition non écrite de l'Église. Alors, il pose d'autre part des fondements extrêmement solides pour une théologie de l'image, et il répond à certains arguments des adversaires des images. Mais il ne faut pas chercher chez lui de façon anachronique ce que nous allons trouver par la suite, que ce soit chez Nicéphore, que ce soit chez Théodore Studite, qui écrivent presque un siècle après lui, après les développements théologiques auxquels a participé Constantin V, auxquels ont participé les pères du Concile de Nicée II, en particulier Thérèse, et puis bien sûr Nicéphore et Théodore Studite.
Merci beaucoup. Alors pour terminer, évidemment, je dirais que cette querelle iconoclaste a eu une deuxième période, avec un deuxième concile iconoclaste en 815, puis en 843, le rétablissement de la vénération des icônes, et depuis 844, un an plus tard, on a instauré cette fête du dimanche de l'orthodoxie, le premier dimanche du Grand Carême. Et d'ailleurs, c'est très emblématique de voir que la restauration des icônes est devenue la fête de l'orthodoxie. Elle a en quelque sorte résumé toute la proclamation de la doctrine juste. Je vous remercie beaucoup. Je voulais rappeler peut-être des lectures. Bon, il y a toujours le livre écrit par Mgr Schönborn, aux éditions du Cerf, l'icône du Christ, fondement théologique, puis aux éditions Migne, Jean Damascène, le visage de l'invisible, avec les discours sur les images traduits en français. Monsieur Fluzin, je vous remercie beaucoup. Notre prochaine émission, ce sera le dimanche 4 mars. Nous recevrons Bertrand Vergely sur le thème de la souffrance. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargé de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Guillaume Ledu. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris SEDEX 16. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.